6h46, vous écoutez France Culture, évidemment. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Migné, bonjour à tous.
Alors, dans les enjeux internationaux, aujourd'hui, l'Algérie, après le retrait de Bouteflika et le report de l'élection.
Voilà, c'est ça, elle n'aura pas lieu le 18 avril. En tout cas, c'était le message hier soir de la présidence algérienne qui annonce aussi une conférence nationale et peut-être une nouvelle constitution avant la fin de l'année. Le président ne se présente pas, mais ne part pas non plus. Alors, quelle suite, perestroïka ou reprise en main, Gorbatchev ou Poutine, c'était une alternative que vous posiez. Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous retenez pour commencer de cette séquence, c'est-à-dire le verre à moitié vide ou à moitié plein, pas de cinquième mandat ou cette prolongation pour l'instant du quatrième mandat?
Oui, je préfère retenir le fait que c'est une fausse sortie en réalité, hein, puisque constitutionnellement, rien ne permet au président de la République actuelle de prolonger son mandat d'autorité. Et on voudrait savoir sur quelle base juridique cela va se faire. Et il reste encore beaucoup de questions en suspens. Et c'est une bonne annonce, mais avec une très mauvaise application. Donc je suis très mitigé ce matin et depuis hier soir déjà, sur cette annonce qui en réalité n'en est pas une.
Et sur le ton de ce message ou de cette lettre, peut-être un peu testamentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un vocabulaire qui parle de ultime devoir envers le peuple algérien, processus de transformation de notre État-nation que j'estime être ma mission ultime encore. Je disais testament, ça y fait penser quand même un peu politiquement.
Oui, absolument. Ça n'est pas qu'un testament politique, c'est peut-être aussi un testament philosophique et moral. Et il sait qu'il devra rendre des comptes et que face à l'histoire, elle le jugera de manière très sévère parce qu'il a une énorme responsabilité dans l'impasse institutionnelle et politique dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Algérie. Et par conséquent, cette fausse sortie va ajouter, je dirais, encore à son passif, alors que puisqu'il décide de ne pas se briguer un cinquième mandat, qu'il aille jusqu'au bout de cette logique et qu'il soit en capacité de dire « je passe réellement le relais ». Un nouveau gouvernement est en train d'être constitué. C'est lui qui doit expliquer les affaires courantes et c'est lui qui doit gérer cette transition et cette conférence nationale.
Alors, est-ce qu'il y a des raisons de croire tout de même qu'il pourrait ne pas s'agir d'une ruse, hein, comme le disaient certains parmi les plus sceptiques, Ali Benflis ou l'ancien ministre de la Culture Abdelaziz Rahabi aujourd'hui. Qu'est-ce qui permettrait effectivement qu'il y ait véritablement une transition, comme il l'a annoncé?
C'est difficile à dire. À ce stade, on n'a pas plus d'éléments que ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu la situation dans laquelle se trouvent les Algériens depuis à peu près plus de 55 ans, depuis leur indépendance. C'est un système qui est extrêmement opaque et on a la sensation, comme toujours, d'être redevable à ces gens sur la gestion du pays. Et on a la sensation que c'est quand même un pays qui leur appartient avec évidemment ses richesses, avec une population, avec ses institutions. Ils ne rendent pas compte. Ça se fait dans une opacité totale. Pourquoi dire je me retire, je ne ferai pas de cinquième mandat et en même temps annoncer des mesures qui paraissent plutôt positives puisqu'on entrerait, il faut rester prudent, dans un processus de démocratisation. C'est assez ambigu, c'est peut-être malin, je ne sais pas. Au sens de malignité et je pense que les manifestations vont se poursuivre et que les revendications ne vont pas baisser. Au contraire, les manifestants, les Algériens vont continuer à réclamer son retrait définitif de la vie publique.
Et on va redire un mot de la société civile. Pour terminer sur le président, est-ce que ça signifie qu'il aurait fallu parler de lui avec des guillemets, autrement dit, est-ce que c'était pas un peu une fiction ce cinquième mandat? Et est-ce que ce Abdelaziz Bouteflika n'est pas en train de servir de fusible à son entourage, hein, pour le dire comme ça?
Peut-être, ça aussi c'est difficile à dire, je suis incapable de répondre à cette question, je ne sais pas quel est son état réel, il y a beaucoup d'informations qui circulent, bonnes, mauvaises, vérifiées, avérées, je ne sais pas. En réalité, peu importe tout cela, il est le chef de l'État. Depuis 2013, c'est un président fantôme qui n'est pas en capacité d'exercer ses fonctions. Par conséquent, il aurait dû, par sagesse et par respect pour les institutions et pour son peuple, déjà se retirer depuis longtemps. Est-ce que c'est son entourage qui l'instrumentalise? Est-ce que c'est un petit clan? Pour quelles raisons? Pour quelles visées? Quels objectifs cela sert-il? On voit bien que l'Algérie, petit à petit, est en train de s'enfoncer silencieusement dans une crise qui est extrêmement grave et dont les périls ne sont pas totalement surmontés à l'heure à laquelle nous parlons.
Oui.
Donc voilà, il reste encore beaucoup de questions en suspens et il faudra pas tarder à lever les hypothèques qui restent aujourd'hui encore.
Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que pourrait amener le retour ou l'arrivée de ces figures institutionnelles qu'on a présentées comme probes, hein, je veux parler du remplacement du Premier ministre Ahmed Ouyahia par l'ex-ministre de l'Intérieur Noureddine Bédoui, hein, qui est un ancien préfet plusieurs fois, et puis bien sûr le retour de Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, cette fois comme vice-premier ministre, c'est ça ?
Oui, là aussi, on joue avec les institutions. La fonction de vice-premier ministre n'existe pas dans la Constitution. Donc, on fait des petits arrangements. Vous voyez, il y a tout un tas de petits détails qui montrent qu'en réalité, ces gens n'ont pas perdu leur réflexe. Pourquoi ajouter ou surajouter à un millefeuille déjà bien indigeste une fonction supplémentaire alors que celle du premier ministre, puisque le prénom lui-même annonce qu'il s'agit d'un gouvernement qui sera chargé d'expédier les affaires courantes. Ça suffit, il faut faire un gouvernement compact, limité à 15 ou 16 ministres, qui puissent vraiment travailler et se concentrer sur l'organisation de la conférence nationale et du processus de transition.
Oui.
Et on voit bien qu'il s'agit de marquer un peu à la culotte, comme on dit en termes sportifs, le Premier ministre.
Et est-ce que, quand bien même concernant, la solidité ou la souplesse de ce qu'on pourrait appeler, le régime, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, juste ces derniers jours, des pressions ou des défections trop importantes? Je veux parler de la grève générale, de l'UGTA, le principal syndicat qui voulait la démission de son président, surtout des 1000 juges qui refusaient de superviser l'élection, les anciens combattants. En gros, est-ce que ce n'était pas trop, objectivement, pour le FLN, hein, et l'alliance présidentielle ?
Mais même au FLN, ça craque. Hein. C'est un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Vous avez raison, toutes ces organisations satellites du FLN, tous ces hommes d'affaires, notamment, hein, avec un patronat qui est entré dans une très grave crise et qui, eux aussi, devront rendre des comptes sur la manière dont ils ont amassé leur fortune. Ça fait effectivement beaucoup, donc probablement quelque part dans un cénacle, au cours d'un conclave, des hommes ont jugé que ça allait trop loin et qu'il fallait penser au coup d'après, comme on dit, aux échecs. Et par conséquent, aujourd'hui, la situation allait vraiment... Encore une fois, on a très peu d'informations sur ce qui nous a conduit à cette situation. Par conséquent, aujourd'hui, ce qui est essentiel, encore une fois, je crois que c'est la principale préoccupation qu'on doit avoir, c'est d'éviter la confrontation et d'éviter les dérapages. Parce que si jamais une certaine jeunesse estime que c'est une frustration insupportable de voir le président à nouveau tenter de jouer avec le sort, ça peut déraper. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant.
Donc tout risque de reprise en main, disons, par l'armée un peu à la Sissi n'est pas écarté selon vous, même s'il y a eu le ménage fait, hein, dans l'organigramme militaire l'année dernière?
Oui, c'est pas totalement écarté, même si je n'y crois pas, mais encore une fois, une provocation, ils ont l'habitude, hein, la police politique nous a souvent tiré ça de son sac au cours des années 80 et 90, donc c'est tout à fait possible. Il faut rester très vigilant, il faut rester prudent dans ce qu'on dit, et surtout continuer à soutenir ceux qui se mobilisent. Mmh. En tout cas, je relève une fois de plus que c'est la première réaction internationale hier soir a été la réaction américaine et que par conséquent, ça fait deux fois que les Américains s'expriment. C'est un peu le même processus que celui auquel nous avions assisté après les grandes mobilisations populaires en Égypte. Peut-être que c'est une manière très diplomatique d'apporter un soutien à une population qui en a bien besoin parce qu'elle est totalement livrée à elle-même.
Ouais, et toute dernière chose, alors s'il y a avancée historique, c'est par rapport à quoi? L'indépendance de 62, la répression de 88 ou le retour de Bouteflika, justement comme plus petit dénominateur commun? Désormais, ça c'est éliminé, faut trouver un autre dénominateur, non?
Oui, vous avez raison, mais l'histoire, vous savez, c'est un ensemble. On peut pas prendre ce qui nous arrange, ouais, ou ce qui vous paraît le plus présentable. Donc il faut garder tout cela. Mais si je devais résumer d'une formule un peu lapidaire, je dirais que en 1962, l'Algérie a vécu son indépendance et que l'histoire se souviendra qu'en février-mars 2019, elle a retrouvé sa libération ou elle a acquis sa libération.
Et on approche du 18 mars, de la date du 18 mars d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos explications ce matin. On suit tout ça jusqu'aux manifestations du 15 évidemment. Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, et on renverra à votre géopolitique du Maroc sur le site de France Culture. Merci et bonne journée.